première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h, par où dire?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire?
Pas seulement une exposition, c'est un projet de réseau de connexion culturelle entre principalement la ville de Barcelone et des villes ou des régions européennes. Et donc on a commencé avec le Tessin, hein, la Suisse italienne, parce que je suis originaire de là. Et ça a très bien marché. En fait, moi je dis toujours d'expositions d'architecture, il y en a partout dans le monde et chaque jour. Par contre, la nôtre, c'est un échange entre deux villes et les architectes voyagent.
Et à une fois, j'entends. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Vous
allez où? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Architecture. Regard croisé, architecture de Wallonie-Bruxelles et de Barcelone, à l'espace architecture à Flaget, jusqu'au 18 novembre.
Il y a 20 bureaux sélectionnés. Normalement, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ne viennent pas, mais il y a une délégation de 17 bureaux, plus ou moins en moyenne. Ça fait 40-50 personnes qui payent le voyage et qui viennent participer à ces 2 jours.
Avec Nicolas Rigucci, Nathalie Brison, Pablo Loas, Stéphanie Winox, Sébastien Dachy, Andrea Tenuta, Delphine Peters et Judith Leclerc.
So, just maybe a few words in English to present Wallonia-Bruxelles architecture and why we are involved in this project. So, the agency was founded in 2010 by, let's say, the Ministry of Culture and the Ministry of International Relations.
Nathalie Brison, on vous entend parler anglais. Que dites-vous aux architectes venus de Barcelone?
Alors, je leur ai expliqué ce qu'était WBA, puisqu'ils ne connaissent pas l'agence, et la raison de notre implication dans cette exposition et ce partenariat avec Cities Connection Project.
Lectures, to press invitation, to visit of buildings, quite a wide range of events in order to present the work of our architects.
Architecture, regard croisé, par Thierry Junico.
Quand les Barcelonais ils vont dans la ville invitée, là, vu qu'ils se connaissent déjà, on propose des visites de bâtiments emblématiques de la région.
Architecture, regard croisé, architecture de Wallonie-Bruxelles et de Barcelone, production, Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Une ancienne usine à tabac en un centre administratif pour la commune de Molenbeek. C'est une antenne pour la population. Il y a déjà un service population à Molenbeek, mais comme la commune est très étendue, ils ont décidé de créer une antenne.
Moi, je m'appelle Sébastien Dachy. Je suis du bureau Mammouth Architecte et le projet qu'on voit ici est un projet qui a été fait en collaboration avec Stéphanie Willox, qui est architecte, et le bureau d'architecture LD2, qui est un bureau également bruxellois.
Ces deux entités, il y a une grande halle et puis un bâtiment qui vient s'aligner le long de la rue avec une structure en béton assez marquée. Et on a voulu partir de ce bâtiment-là pour développer le projet, le programme.
Depuis l'extérieur, ce qui nous a énormément intéressé dans ce projet, c'est cette idée vraiment de façade-écran. Dans le passé, c'était l'entrée de livraison, mais aussi les parties plus administratives de la cigaretterie. Donc c'était un peu la façade, on va dire, prestigieuse de l'usine. Et donc ils avaient vraiment mis un soin très particulier, et on le voit dans tous ces détails de briques. Il y a beaucoup d'appareillages différents, plusieurs types de briques utilisées, et aussi dans ces jeux de couvre-murs en pierre bleue, très travaillés, avec des joints, des gargouilles qui sont très subtils. Donc on a beaucoup aimé ce contraste entre cette façade vraiment décorative et le reste derrière qui est finalement un hangar en béton, mais qui s'apparente vraiment à un hangar très rationnel, très fonctionnel. Donc très vite dans le projet, il est apparu qu'on avait envie de restaurer cette façade à l'identique.
L'entrée du bâtiment se fait via cette grande halle. C'était assez évident.
Architecture. Regard croisé, architecture de Wallonie-Bruxelles et de Barcelone. À l'espace architecture à Flaget, jusqu'au 18 novembre.
La grande porte de garage a été supprimée et a été remplacée par cette entrée maintenant qui est l'accès du public, qui est une grande porte vitrée.
Le public arrive dans cette salle d'attente qui est un peu comme une entre-deux, entre un intérieur et un extérieur.
Donc on rentre et la salle d'attente est subdivisée en deux zones. Ici on est dans une période d'utilisation très faible du bâtiment, donc il n'y a pas grand monde, mais il est prévu de pouvoir accueillir 150 personnes en même temps. Dans l'autre service population existant, les gens font la file dehors, ce qui nous avait paru assez aberrant. Donc ici, on a prévu dans la grande halle cet espace comme vraiment un lieu où les gens peuvent venir en masse, se rassembler de manière très agréable. Donc on a installé ces bancs ici qui permettent d'attendre en contemplant la vue. Pour le moment, c'est un parking, mais dans le futur, il est prévu une crèche avec des aménagements, etc. Donc ce sera un beau fond de perspective.
Le long de la façade, proche de la rue, toutes les baies ont été au rez-de-chaussée ouvertes.
Stéphanie Willow.
De manière à avoir vraiment ce lien entre l'espace public et la salle d'attente.
Sébastien Deschi.
Seul étant pavé. Ce sont des pavés sciés, donc le dessus du pavé est lisse. Ce sont des pavés recyclés qu'on a été recherchés dans des rues de Bruxelles. Et ce sont les mêmes pavés qui revêtent la place communale de Molenbeek. On a voulu vraiment faire rentrer l'espace public dans le bâtiment. On est à l'intérieur, mais on a aussi ce sentiment d'être un peu à l'extérieur. On n'est pas dans un couloir d'administration qu'on sait parfois particulièrement désagréable. L'envie ici, c'est qu'on soit... Voilà, on se sent bien, on se sent partie intégrante de la ville quand on vient ici.
De l'autre côté, on a tout l'espace réservé pour le personnel qui fait face au jardin.
Les nouvelles interventions, elles, sont en bois, du bouleau, donc un bois très lumineux, très clair, et qui permet d'identifier clairement les nouvelles interventions. Donc ici, on a ce volume qui contient des sanitaires, un accueil et une salle pour les gardiens, ces nouveaux bancs.
Qui a une ambiance... assez différente parce qu'en fait c'est deux fonctions différentes.
Une sorte de banquette qui permet en fait de dissimuler des parties techniques du bâtiment. Il y a aussi un soin qui est fait pour l'acoustique, l'idée étant de ne pas se retrouver dans un espace qui résonne trop. Donc voilà, il y a des pièges à son dissimulés, les parois sont perforées à certains endroits, etc. pour essayer d'avoir quand même une ambiance, même quand il y a beaucoup de monde, la plus sereine possible ici.
On a le public qui vient, qui veut avoir ses papiers assez rapidement. Et puis on a le personnel qui travaille toute la journée, qui a besoin d'un certain confort, etc. Et on a essayé de mixer vraiment ces deux entités.
Et chaque guichet vient s'insérer entre ces poutres de manière répétitive, qui donne une élégance et un ensemble à l'intervention. Du coup, ce sont des guichets de 2 mètres de large, qui est relativement confortable. Donc les personnes travaillent aussi. On peut baisser les stores et travailler à guichet fermé. Donc ce sont des espaces de travail et d'accueil en même temps.
D'avoir une limite claire, mais en même temps fluide entre les deux.
La réactivation de la ville, c'est-à-dire réutilisation de vieilles immeubles industriels.
Voilà, et donc la zone aussi est en légère pente, ce qui permet au premier guichet d'être accessible aux personnes à mobilité réduite. Et par contre, plus loin, la distance en hauteur se creuse et on a des guichets plus traditionnels, c'est-à-dire que les personnes peuvent être debout du côté visiteur et assis du côté personnel et travailleur.
Il y a cette structure dans tous les 2 mètres et on a choisi d'aligner par exemple tous les guichets. Donc les guichets sont des larges guichets de 2 mètres qui permettent à la personne de travailler même quand à guichet fermé, donc même quand il n'y a pas de visiteurs. Donc vraiment on a essayé d'adapter ce programme au bâtiment. Il y a une interconnexion entre les deux et les deux ça porte quelque chose, le programme, le bâtiment.
Donc les guichets sont des structures en acier blanche sur lesquelles sont déposées ces grandes plaques de bois, de bouleau aussi, c'est le même bois qu'utilisé pour les murs et qui dépasse un petit peu pour permettre de faire le guichet. Il y a eu tout un débat pour savoir si on mettait des vitres ou pas. Originellement, nous, évidemment, en tant qu'architecte, on préférait ne pas mettre de vitres parce qu'on trouve que c'est un peu un obstacle. Finalement, il a été tout de même décidé de mettre des vitres, mais avec quand même une grande ouverture. Donc on n'avait pas du tout envie de se retrouver dans ce schéma où il faut crier pour se faire entendre et où une grosse distance apparaît. Ici, on voit les gens discutent avec le personnel à l'intérieur d'une manière très naturelle, malgré la présence des vitres. Les vitres ont aussi permis de coller les numéros dessus, qui ne sont pas collés d'ailleurs, ce sont des pochoirs faits à la peinture, comme tout le reste de la signalétique.
On a aussi choisi, et ça, la commune nous a suivis dans ce choix, ce n'est pas encore évident de réutiliser des matériaux. Tous les pavés au sol, c'est des pavés qu'on a récupérés, les luminaires également. Donc c'est des choses qui nous semblent importantes dans la démarche aujourd'hui pour faire un projet d'architecture.
Sébastien Dachy.
Toute la signalétique est faite sur base de pochoirs que nous avons dessinés pour essayer de sortir de nouveau des matériaux standards et conventionnels. Parce que l'architecture de nos jours peut parfois se résumer à une addition de produits, en fait, tout fait, qu'on met les uns à côté des autres. Contrairement à ce qui se faisait il y a 100 ans, par exemple, où c'était des produits plus semi-finis et qu'avec la main-d'œuvre de l'artisan, on aboutissait et on arrivait à un résultat originel. De nos jours, ça devient très compliqué de faire ça, vu les normes, vu la complexité et vu l'aboutissement de tous ces produits. Mais donc, nous, sans se battre contre ça, on essaye tout de même d'intégrer dans nos projets cette notion d'encore de fait main, d'artisanal, de semi-fini, confini. Donc, c'est toutes des notions qu'on essaye d'intégrer dans des projets qui nous semblent intéressantes et qui permettent d'avoir ce résultat. En tout cas, qui n'est pas standard, qui n'est pas juste issu d'un catalogue et qu'on aurait choisi et intégré dans le projet.
En fait, l'idée, c'est aussi de sortir un peu les architectes de son petit coin et aller voir un peu qu'est-ce qu'ils vont, les confrères, comment ils travaillent dans un pays.
Stéphanie Willock.
Du dialogue, de la recherche, des avis différents que naissent le projet petit à petit et se développe. Ressort grandit, c'est à ce moment-là qu'on a l'impression que le projet prend forme et c'est pas du tout un geste architectural, voilà, c'est petit à petit qui se construit et qui prend toutes les contraintes en considération.
La réactivation de la ville, c'est-à-dire réutilisation de vieilles immeubles industriels.
Essaye de les agencer d'une certaine manière et puis dans un moment le projet apparaît et petit à petit on le développe. Et...
Aucun de nous trois individuellement n'aurait pu arriver à ce projet, ça c'est certain.
Des bâtiments que souvent les architectes de l'autre côté, disons, ils ne connaissent pas.
Et, bah, c'est l'occasion déjà de rencontrer nos confrères à Bruxelles, mais aussi là de faire des rencontres qu'on n'aurait a priori jamais pu faire avec nos confrères de Barcelone. Donc je suis assez impatient d'aller faire ces visites avec eux, enfin on est assez impatient. Pouvoir discuter, échanger aussi bien autour des projets qu'autour de la façon dont on fait les projets. On est évidemment toujours content de pouvoir présenter notre projet, mais aussi intéressant, c'est qu'il est présenté à côté d'autres projets, tous sur le même pied d'égalité, donc on ne le voit pas là, mais enfin, nous on le voit, toutes les mises en page sont exactement les mêmes, il n'y a pas de projet plus important que d'autres. En taille, oui, mais pas en termes de présentation, de manière dont il est amené. Donc c'est assez horizontal comme façon de faire et ça a l'air du coup enrichissant parce que je pense qu'on va pouvoir aller parler, nous on est des jeunes architectes, hein, mais du coup on va pouvoir aller parler avec des moins jeunes architectes. Ça va être très intéressant je pense.
Lors de la présentation, le commissaire a dit que en ce qui concernait les Barcelonais, architectes barcelonais, ils voyageaient beaucoup, c'est votre cas ?
Toutes nos vacances ont chaque fois un objectif. D'aller visiter des bâtiments, d'aller voir la ville, d'aller voir... Oui, bien entendu.
Nathalie Brisson.
Donc WBA étant une agence qui assure la diffusion et la promotion internationale des architectes sur la scène internationale, il nous a paru pertinent de nouer un partenariat avec Cities Connection dont l'objectif est vraiment de créer un réseau international d'architectes et de se faire rencontrer les pratiques de Barcelone avec à chaque fois une ville partenaire.
Nicolas Rigucci.
Les 20 réunions qu'on fait avec le local partner, disons, on ne peut pas se permettre un hôtel, donc il faut toujours des copains dans la ville. Et puis, à partir de là, moi j'avais beaucoup de contacts avec Bruxelles. Déjà, l'architecture belge, elle a eu un peu de renommée, mais on a trouvé que c'était un point important pour commencer avec l'Europe, dans la capitale de l'Europe, région francophone.
Berlin. Il y a des tas de projets, il y a une diversité, on n'en a jamais fini. Et ils continuent, parce qu'on a des amis architectes qui habitent Berlin, et ils continuent à avoir des concours, des projets qui se développent chaque fois avec des objectifs. Une liberté aussi pour l'architecture assez intéressante. Donc voilà, on va y retourner.
Alors nous avons rencontré les commissaires d'exposition en 2016 à Genève dans le cadre de la quinzaine de l'architecture et de l'urbanisme où nous présentions une autre exposition, l'exposition Entrée 5 architectures en Belgique et où eux présentaient une des éditions précédentes puisque cette édition-ci est la cinquième édition de la série.
Pablo
Loas. Il y a certains architectes ou certaines paires d'architectes Barcelone-Bruxelles qui sont plus proches que des architectes qui sont pourtant avoir leur bureau l'un à côté de l'autre. Et je trouve que ça, c'est assez réjouissant. Et puis, effectivement, on sent quand même des tendances, et presque, je dirais, c'est un peu caricatural, mais presque deux tendances qu'on retrouve en Espagne et qui n'existaient pas en Espagne, et qui a peut-être existé ici avant l'Espagne, au travers des projets de, par exemple, Flores et Prats, qui sont quand même... ils étaient à la Biennale de Venise, c'est des gens qui ont une reconnaissance internationale assez grande, assez vite, et qui se reconnaissent ou se réalisent dans une esthétique plus sale, comme ça. Donc, si je prends les projets de rénovation qui sont montrés pour leur bureau, c'est une sorte de patchwork où on prend plaisir à laisser des traces des bâtiments existants et où on ne doit pas... à l'inverse des autres, et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être deux grandes familles, ceux qui aiment encore la netteté du métal, de la ligne et de l'homogénéité d'une architecture qui prétendrait comme ça régler tout au travers d'une géométrie ou de matériaux hyper léchés, hyper nickel, et qui a peut-être longtemps été un peu la marque de l'architecture espagnole. Ils sont géniaux en matière de géométrie et de composition, et là on se laisse plutôt porter à une sorte d'écoute peut-être plus explicite du contexte et accepter des choses un peu plus ingrates, un peu plus imparfaites.
Nous sommes à Bruxelles et le titre c'est « Un port Wallonie-Bruxelles ». Ce ne serait pas l'inverse qu'il faudrait ?
C'est-à-dire que l'exposition va à Barcelone et en Wallonie-Bruxelles et donc on ne peut pas mettre deux titres différents pour la même exposition. Du coup... on va importer Wallonie-Bruxelles à Barcelone. C'est pour ça qu'on a choisi cet ordre-là, puisqu'on exporte Barcelone ici et on importe Wallonie-Bruxelles dans une seconde étape en avril 2019 à Barcelone.
Mais on a eu un vide de travail, donc on a essayé d'utiliser nos connaissances, justement parce que moi je suis de l'étranger, pour créer cette sorte d'interaction, synergie entre les architectes d'un côté et les architectes de l'autre. C'est très intéressant, ça a bien marché le premier, donc on a continué et puis on est très content du résultat et puis j'espère que cette exposition sera bien suivie. On adore aussi cet espace d'exposition. D'ailleurs, on cherche toujours des espaces emblématiques. À Barcelone, on a trouvé le centre d'art Santa Monica qui est juste sur la Rambla. Il y a un espace d'accueil avec une grande terrasse qui donne sur la Rambla.
Aussi varié, parce que c'est ça qui est chouette aussi dans l'expo, c'est que ce n'est pas prétendre à, je sais pas, la naissance d'une architecture Fédération Wallonie-Bruxelles qui serait univoque, un peu comme la Flandre l'a fait il y a 25 ans au travers de Young Architect in Belgique. Et où, alors c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à reconnaître. Il y a une sorte comme ça d'écriture qui incarnerait un territoire, une région et l'autre. Moi, je trouve que le pluralisme qui apparaît là-dedans, moi, me sied assez bien pour caractériser, je sais pas, une région comme la Fédération Wallonie-Bruxelles ou une école comme la nôtre, par exemple.
Oui, justement, l'importance d'accueillir une telle exposition dans une école, qui est une école importante d'architecture, puisque vous dirigez, vous êtes doyen de la Cambre Horta ULB.
Tenuta. Moi, je suis italien. Andrea.
Moi, c'est Delphine Peters, Binario architecte.
On a chaque fois un thème, donc spécifique à chaque région. Je fais un exemple. Par exemple, pour Zurich, c'était super important. Le thème, c'est l'habitat coopératif, logement coopératif. Donc, c'était un thème très fort. Et on se centre sur ce thème-là. Après le Tessin, on a fait Genève. Le thème Genève, c'est la nouvelle voie ferrée qui unit Annemasse au centre de Genève. Bon, Genève, c'est comme une enclave. Il y a tout le thème d'être frontalier. Il y a 500 000 voitures qui chaque jour rentrent dans la ville. Donc ce thème, c'est cette voie ferrée qui est en train de se construire. Et les nouvelles gares qui ont construit, les quartiers qui surgissent autour de cette nouvelle gare.
Moi, c'est Delphine Peters, Binary Architect.
En ayant accès aux ruines auparavant, on allait une sorte de cabane presque qui menait directement dans ce qui était l'enceinte sacrée du site. Les visiteurs n'avaient pas cette possibilité de se reconnecter avec peut-être l'emprise de l'abbaye dans son rayonnement plus important, c'est-à-dire il y avait certainement la partie aura, mais aussi la bora. Donc il y avait notamment le moulin, la ferme et tout ça.
Le projet de Villers-la-Ville, c'est une association de plusieurs bureaux, plusieurs disciplines. Donc c'est un projet vraiment complexe qui réunit des architectes, des scénographes, des paysagistes.
Je pense que c'est vraiment un des points particuliers de ce projet. Une échelle un peu territoriale. À la base, un programme un peu éclaté aussi, avec la question de devoir résoudre avec un sort de fil rouge et accompagner un peu les visites, des contextes un peu hybrides entre l'environnement intérieur et extérieur, et ce qui a évidemment presque privilégié, ou en tout cas créé un bon terroir pour le travail d'équipe. Je cite un exemple, enlever le parking actuel pour pouvoir vraiment avoir un accès au-delà de la première enceinte, englober le moulin et essayer de traiter la route nationale, les paysages, la bord, etc., de façon, le landscape en général, de manière à réunifier le site, l'apaiser en quelque sorte, et pousser aussi les voitures plus loin. Et
puis ici, on est vraiment dans une abbaye cistercienne en ruine.
Donc on arrive ici, tout doucement, à ce qui fut le site du moulin du Dieu. C'est un bâtiment imposant qui a déjà fait à l'époque l'objet des restaurations et même d'une rehausse. Donc ça a été déjà manipulé, c'est un bâtiment manipulé, mais qui a un valeur vraiment très, très important, iconographique. C'est là où les moines utilisaient la force de l'eau pour vraiment l'installation.
Et donc qui a vraiment un potentiel incroyable. Il faut vraiment se nourrir de cette existence, de cette ambiance.
Une des raisons qui a amené les moines ici, c'est-à-dire la présence d'une carrière presque à ciel ouvert, puisqu'on a des flancs de collines en schiste, etc., qui ont servi justement pour la construction dans un vrai circuit court, disons, des matériaux premiers pour le travail des bâtiments. Et l'exploitation de l'eau, il y a eu un travail hydrologique remarquable parce que ici justement, à partir là où on voit ici pour l'instant, il y avait un bassin de retenue d'eau qui servait justement pour la gestion du débit d'eau et la régulation dans 350 jours par an d'un débit d'eau constant pour une vraie proto-industrie quelque part du moulin. Et au-delà du moulin, par contre, la tille, donc le cours d'eau, a été complètement voûté. Donc il y a plusieurs centaines de mètres voûtés. Ceci aussi est un œuvre d'ingénierie assez remarquable, puisque l'entièreté de la abbaye prend place sur ce qui était le cours d'eau, quoi, mais qui était complètement donc recouvert. Et voûté.
De cette ambiance déjà très particulière des lieux, parce que les cisterciens avaient vraiment cette façon de construire déjà de manière très sobre, très simple. Et donc comment venir s'insérer dans cette préexistence de manière juste, donc sans bousculer l'équilibre, mais vraiment en ajoutant une couche qui vient vraiment en harmonie avec ce qui est là.
Donc là, on va rentrer dans le moulin. Le moulin était déjà exploité, déjà occupé au moment où on est intervenu par de l'Horeca. Donc il y avait un restaurant, une taverne qui marche très bien, qui marchait et qui marche toujours bien. Et il y a aussi les bureaux donc, de l'ASBL qui s'occupent du site. Donc il y avait la première difficulté, c'est-à-dire exploiter, donc utiliser pour le centre des découvertes, le centre du visiteur, les espaces résiduels qui n'étaient pas du tout utilisés. Mais, et donc il fallait continuer, travailler en continuité, même en pendant le chantier, donner la possibilité à ces deux autres activités de continuer leur travail. Quoi. Et voilà, donc je vous propose de rentrer. Mon nom est Tenuta, Andrea Tenuta. Voilà. Donc ici, on accède à véritable accueil. Ceci est une sorte de sas.
Donc évidemment, tout ça nécessite beaucoup de dialogue entre les différentes disciplines.
Un peu saisir l'esprit du lieu, cet héritage matériel et immatériel qui nous était pendant un certain temps un peu déposé dans les mains. Et en même temps, faire dialoguer justement, puisqu'on a une confiance dans la possibilité de l'architecture contemporaine, le travail des matières, de rentrer un peu en résonance avec les lieux. Ce ne fut pas chose facile non plus. Pouvoir faire comprendre nos propos dans ce processus-là, qui a duré d'ailleurs une dizaine d'années. 2009, on a eu la mission, et 2016, on a su livrer le centre du visiteur. Nous avons une salle avec une certaine capacité et qui a un outil qui a été mis en place par les scénographes en collaboration avec l'équipe de l'ASBL, qui est très important pour l'ASBL, un support donc, de grandes maquettes en schiste qui puissent justement donner avec un coup d'œil directement l'emprise de ce qui fut l'abbaye à ce moment-là, avec l'enceinte, le relief. Donc c'est un support, la rivière évidemment, la Tille, un support pédagogique très important, d'explication pour les animateurs, justement les accompagnateurs. Un moment justement de repos, d'attente, parce qu'ici on a travaillé beaucoup sur les parcours, sur les cheminements. Ici vraiment c'est un moment où on peut accueillir et approfondir certains sujets selon le type de visite. Et on a aussi la possibilité ici. Tiroir qui se cache en dessous de cette grande maquette. Nous avons donc un autre outil justement pour les enfants. Ils ont la possibilité de reconstruire un peu la chronologie de construction dans les différentes époques de l'abbaye. Alors là, dans son emprise qui englobe aussi, vous voyez, la ferme, l'étang.
Et puis contraste entre l'obscur d'où l'on vient et la clarté où nous sommes.
Ça, c'était vraiment un objectif des scénographes. Et que la lumière vienne de façon un peu inédite, quelque part.
Bernard de Citeaux, n'est-ce pas?
Oui, 1153, je pense, hein, la date. Oui.
On a réalisé que ce soit pour les baies, pour les claustras, pour les traitements des passerelles, donc pour ces matières nouvelles qu'on a amenées dans les sites, on a pu réaliser avec des artisans des véritables prototypes qu'on a amenés après en réunion avec 15-20 personnes. Et ça, c'était décisif pour que le projet puisse un peu se matérialiser dans la tête, dans l'imaginaire aussi des personnes et qu'on puisse aller en avant. Et ça a été le cas aussi pour le chantier. Donc on a réalisé beaucoup de prototypes aussi, notamment pour les bétons qui reçoivent un traitement un peu particulier. On a pu travailler beaucoup avec ce prototype. Et c'est quelque chose qui a marqué aussi notre expérience en tant qu'architecte. L'importance dans ce monde de la construction très normalisé où il y a des normes pour tout et n'importe quoi. Réaliser pour aussi sortir, décloisonner aussi le potentiel de la matière. De réaliser justement des prototypes et avancer sur ces bases-là, quoi, comme un peu un terrain de recherche sur la matière.
Voilà. Cette abbaye qui est en ruine.
On peut peut-être aller au sommet presque de la colline. Ça, c'est aussi un point très intéressant de regard sur l'abbaye.
Faire comprendre aux visiteurs qu'il va déambuler dans un site qui est vraiment vaste, large, trouver une intervention qui va le tenir en haleine vraiment tout au long du parcours et avoir une homogénéité dans cette intervention. Et donc ça veut dire que paysagistes, scénographes, architectes doivent vraiment créer quelque chose de commun, donc à travers l'utilisation des matériaux.
Il y a une table d'orientation, comme on dit.
Cette abbaye qui est en ruine, sa ruine vient de la Révolution française?
C'est parti de là, mais un peu comme pas mal d'autres histoires liées à la Révolution, ce n'est pas nécessairement une destruction volontaire, mais des ruines créées par le fait que le bien était d'abord évidemment spolié de sa fonction, et ensuite
vendu et
utilisé voilà, comme carrière. Comme,
oui, donc oui, son propriétaire a clairement, petit à petit, désintégré la plupart des bâtiments pour en vendre les matériaux.
Si après, il y a des choses qui... Ici, le jardin de la pharmacie, parce qu'à un moment donné... Le bâtiment qui surplombe la nationale était une infirmerie et les jardins étaient en partie utilisés pour la convalescence des moines. Donc il y avait aussi clairement une culture de plantes médicinales, etc. Et ce qui a conduit aussi certaines réflexions liées au réaménagement quelque part de ces jardins. Ces jardins aussi ont été restitués justement puisque étaient dans un état lamentable, étaient une véritable ruine. La végétation avait complètement couvert l'ensemble et détérioré les murs. Et donc on a pu, ne fût-ce que restituer l'emprise du bâtiment et sa force et sa logique dans l'ensemble constitué par l'abbaye.
Delphine Peters.
C'est vrai que c'est un cadre particulier d'intervention aussi parce que il y a aussi cette notion un peu romantique de ces ruines qui ont quand même fasciné pendant toute une période des tas de visiteurs. On a commencé à visiter l'abbaye parce que justement c'était en pleine période romantique. Ça attirait Victor Hugo qui est venu sur place et qui a laissé même des signes visibles dans les cachots, etc. Donc, il y a beaucoup d'histoires autour de Villers.
Qui continue, puisqu'on y fait du théâtre
tous les
étés.
Mmh. Oui.
Exact.
Donc, c'est un lieu de scénographie.
Oui, tout à fait. Oui.
Et d'imaginaire.
Mmh. Exact. Ce qui, moi, autant qu'architecte, m'impressionne ici, c'est vraiment la structure d'implantation. C'est-à-dire, c'est la beauté du plan, hein, dans la façon de laquelle les moines ont pu s'organiser. Donc il y avait une sorte de beauté dans cet usage des lieux. Donc ils ont pu réaliser quelque chose sur place qui est bien ancré avec le lieu topographique, géographique, la prise en compte justement des matières premières, de l'eau, de la lumière, dans des buts multiples qui sont la vie spirituelle clairement, mais la vie de tous les jours aussi. Donc c'est, en tant qu'architecte, c'est vraiment plutôt la réflexion
Andrea Tenuta,
presque d'architecte, qu'ils ont eu dans la façon de déployer des structures de plans de bâtiments pour un usage précis, mais un usage assez complexe. C'est ça qui m'intéresse avant tout. Au-delà de évidemment aussi la fascination qu'on peut avoir pour la ruine en tant que telle. La ruine nous ramène à quelque chose qui est plus proche, quelque part, d'un état naturel, presque. Post-intervention humaine, c'est quelque chose qui renvoie à plein de choses. En architecture, on a venustas utilitas et firmitas, donc la stabilité, l'utilité et la beauté. Et ici, en fait, puisque l'usage n'a plus lieu d'être, la stabilité n'a plus lieu d'être non plus. Ce qui peut rester, ce n'est que la beauté.
On a toujours besoin d'un partenaire local, c'est fondamental. Au Tessin, c'était l'Académie d'architecture. À Genève, c'était une institution publique. À Zurich, c'était une galerie d'architecture très importante. Et ici, à Bruxelles, c'est Wallonie-Bruxelles Architecture. Donc, ce n'est l'idée de créer cette nouvelle connexion, la première hors de la Suisse avec la Belgique. Belgique francophone, mais non, au niveau de l'architecture, c'était surtout connu la partie flamande, mais on peut voir dans l'exposition que c'est l'architecture de Wallonie-Bruxelles. Bon, c'est pas seulement centré sur Bruxelles.
Nous sommes dans le réfectoire, les moines.
Ici à Bruxelles, moi je loge toujours aux étangs d'Ixelles chez une copine, donc j'adore la place Flaget.
Parler d'architecture, non pas seulement aux architectes, mais d'essayer d'en parler au plus large public. Et donc on a, il y a quelques années, édité un livre blanc d'architecture en communauté française de Belgique à l'époque, qui s'intitulait « Qui a peur de l'architecture ?» et qui était une adresse aux politiques pour essayer de reconsidérer l'architecture et de la considérer comme un...
Pablo Loas.
Pas seulement un marqueur de développement, mais un moteur de développement culturel. On a, après ça, fait des expositions qui s'appelaient « Renouveau, plaisir d'architecture ». Et celle-ci pourrait être vue comme à la fois une sorte de suite de ça et, je vais être un peu vache pour nous, mais l'impossibilité qu'on a maintenant de le refaire. Donc on avait fait 3 éditions de cette exposition Renouveau Plaisir d'architecture, où on avait nous-mêmes été l'opérateur, c'est nous-mêmes qui faisions la sélection, c'est nous-mêmes qui faisions le commissariat, qui faisions des jurys, qui montions ça avec l'ex-CIVA, Centre International pour la Ville et l'Architecture, et aujourd'hui, on n'est plus en mesure de le faire, parce que ce partenaire qui existe autrement, voilà, ne nous rend pas la vie facile là-dessus. Et donc, on n'a plus les moyens, je dirais vraiment économiques, de le faire en entier. Mais donc, on se réjouit de pouvoir recevoir, abriter, collaborer à une expo qui parle d'architecture, qui parle d'architecture de manière ouverte, qui parle de collaboration, et c'est ça qui est aussi chouette, sur plusieurs plans avec Barcelone.
Le thème, là, c'était la réactiver la ville.
C'est clair que ce projet... C'est aussi une mise en relation presque professionnelle d'architectes barcelonais avec des architectes belges et qu'il avait fait avant avec des architectes barcelonais et des architectes suisses. C'est qu'on commence comme ça à tisser un réseau de possibles relations presque, je vais être un peu cru, d'affaires, mais sur des bases architecturales. Donc ce n'est pas des bureaux qui se reconnaîtraient parce qu'ils ont le même chiffre d'affaires ou parce qu'ils ont le même nombre de collaborateurs, mais parce qu'ils pourraient se trouver une sorte d'adhésion sur ce que c'est que l'architecture aujourd'hui.
Les oies,
les moyens anti-intrusion.
Les oies anti- du capital, n'est-ce pas?
Puis on a trouvé très intéressant de chercher 20 exemples sur Bruxelles et les alentours ou Wallonie, et puis 20 exemples sur Barcelone. Donc c'est un peu ces regards différents, mais en même temps d'une qualité très grande, qui peuvent se confronter l'un de l'autre. Donc il y a différents projets, ça va du logement, à réaffectation de bâtiments industriels, rénovation d'école, il y a toute une série de projets différents qui font ce slogan « Réactiver la ville ».
Judith Leclerc, et vous venez de Barcelone?
En fait, je suis de Montréal, mais j'habite à Barcelone depuis, juste après les Jeux Olympiques, 1996.
C'est Nicolas Regucci et Xavier Bustos. Nous sommes les créateurs de cette association. En fait, elle est née... C'est drôle parce qu'en 2010, à Barcelone, il y a eu une crise. Nous, on est architecte de formation. On continue avec l'architecture, mais on a eu un vide de travail. Donc, on a essayé d'utiliser nos connaissances, justement parce que moi, je suis de l'étranger, pour créer cette sorte d'interaction, synergie entre les architectes d'un côté et les architectes de l'autre.
Barcelone, en fait, la différence peut-être entre les projets d'ici et ceux de Barcelone, c'est que ceux de Barcelone sont très centrés sur la ville même de Barcelone. Il y en a très peu qui sont à l'extérieur, tandis qu'ici, j'ai remarqué que plusieurs étaient de l'extérieur. Et ceux de Barcelone sont très axés sur des remises en valeur d'édifices qui existaient déjà, souvent des édifices d'usage industriel désuets, ou des édifices qui visent à réactiver la ville. Dans notre cas, c'est pas un édifice ancien, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune construction où on a fait notre projet, mais c'est un quartier totalement industriel qu'on veut réactiver. en mettant des logements avec un beau mélange d'usagers.
Les 20 architectes qu'on choisit chaque fois, ce n'est surtout pas des architectes connus. C'est justement essayer de faire connaître des bons architectes qui ont fait des bons projets, mais ils ont une influence à niveau local, mais pas l'étranger. C'est des gens qui nous intéressent beaucoup. Parce que les grandes stars, en fait, c'est mon opinion, hein, mais ils passent le temps à voyager parce qu'ils ont des projets dans tout le monde, mais je crois qu'ils n'ont pas le regard local sur l'architecture, disons, proche, de proximité.
La crise, c'est 50% des bureaux des architectes ont fermé en Espagne. La nouvelle génération d'architectes s'est réinventée, travaille de façon plus comme des coopératives, travaille beaucoup aussi avec les usagers. C'est des gens qui vont... on a ici un exemple, le groupe de Lacol, c'est une coopérative qui va aussi organiser des réunions avec les gens de la ville, non ? Et agrandir le processus de participation collective, non ? Du design. Donc ça, c'est les nouvelles générations qui montent. Donc ça, c'est vraiment présent. Et aussi, la crise énergétique, ben, ça vient du fait que plusieurs personnes ont perdu leur logement durant la crise en Espagne pour ne pas pouvoir payer l'hypothèque. Il y avait beaucoup de mises à pied. Alors ça a été très important à Barcelone pour la nouvelle mairesse. Le thème des logements, mais vraiment faire des logements sociaux, faire des logements sociaux aussi avec une nouvelle vision. En fait, c'est des logements sociaux, comme on en a toujours fait, mais qu'ils ont un mélange, c'est-à-dire que c'est aussi des logements temporaires pour des personnes qui ont perdu leur logement durant la crise. Et presque tous les projets que vous voyez de Barcelone ont une attention très particulière pour sauver l'énergie. Non ? Ça, c'était une chose qu'on ne prêtait pas attention. Dans la Méditerranée, on croyait... Bon, c'est facile, il ne fait pas froid dehors, etc. On a soulevé beaucoup le problème de la pauvreté énergétique. Et donc, presque tous les projets ont cet essai pour être très efficaces, non ? Réduire la demande, utiliser des systèmes passifs, traditionnels, mais disons bien élaborés, pour réduire les coûts. Donc, c'est un peu arte povera, hein, si on voudrait choisir un mot pour expliquer tous les projets qu'on voit un peu de Barcelone. Mon nom est Judith Leclerc et mon agence est Coy Leclerc à Barcelone. Et le projet qu'on présente, c'est celui-ci. On l'appelle Mixed Dwelling parce qu'il y a plusieurs types d'appartements, plusieurs types de modalités et plusieurs durations. Il y a des personnes qui peuvent rester là à vie, les locataires, tandis qu'il y en a d'autres, c'est des personnes qui vivaient sur la rue, ont un certain accompagnement, ils peuvent habiter là de 3 mois à 15 mois. Et donc, ils partagent plusieurs parties de l'édifice, non ? Comme ils vont avoir des buanderies ou des restaurants, des réfectoires, disons. Ils ne mangent pas dans leur appartement, ils mangent en groupe, non ? Ils ont des suivis, ils ont des ateliers avec les psychologues, etc. Et le but est de les réinsérer dans des logements normaux. Et ce que fait notre projet, c'est qu'en fait, on le camoufle. On n'essaie pas de montrer... Il y a deux types de propriétaires, non ? Ou de locataires. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, de les camoufler, mais de les intégrer. Et on pense que de cette façon-là, on peut encourager la réinsertion d'un côté comme de l'autre, non ? L'édifice est récent, il a été terminé au mois de février. Il est habité depuis le mois de septembre par les locataires, disons, normaux, ceux qui ne sont pas assistés. Et les logements temporaires vont être habités à partir du mois de janvier. Alors, comme la mairie a pris possession de l'édifice, a décidé qu'il soit utilisé déjà, en ce moment, on reçoit des migrants qui viennent du Sub-Sahara et on leur donne un premier traitement de bienvenue à Barcelone, au rez-de-chaussée, dans le futur endroit des logements. Donc, je ne suis pas encore allée sur place, je vais y aller la semaine prochaine. Mais c'est quand même un édifice qui est quand même assez flexible pour permettre cet usage, disons, d'urgence qu'on a en ce moment à Barcelone. c'est expérimental dans le sens que je n'en connais pas d'autres en Espagne, c'est les premiers. Et je sais que ceux qui l'ont mis sur place sont allés visiter des choses semblables en France. C'est expérimental dans le sens qu'on ne connaît pas encore les résultats que ça aura. On l'appelle le jardin d'hiver. Ben, c'est un dispositif traditionnel, mais qu'on a décidé de technifier un peu. On a décidé de le paramétriser. Alors, jardin solaire, qu'est-ce que c'est? C'est une serre dans sa maison. Donc, la maison est une grande pièce qui est la ventilation croisée, bien orientée, c'est-à-dire plein sud, vers la mer, à Barcelone. Ensuite, on a un filtre qui est ce jardin solaire, cette serre. Et ensuite, on a la loggia. La loggia qui est positif méditerranéen de toute la vie. Et on a décidé de calculer combien on sauvait d'énergie sans avoir à ajouter de l'isolation, disons, au mur. On est arrivé à des numéros de 33%, c'est-à-dire que on sauve 33% de chauffage parce qu'on a ce dispositif. Imaginez-vous un endroit où on peut lire un livre, on peut avoir des plantes, et en été, on doit complètement l'ouvrir, non? Alors c'est un dispositif d'une série de verres qui peuvent s'ouvrir complètement. Et très important, il fait très chaud en Espagne en été, donc on a un système de persiennes barcelonaises très anciennes qu'on a décidé de réinventer, non? La persienne à Barcelona. Et c'est très important d'ombrager cet endroit, mais en hiver, de l'avoir plein soleil. Donc, c'est un dispositif qui, finalement, d'après toute la paramétrisation qu'on a fait, il sauve 23% de chauffage, mais il sauve 44% de climatisation en été. Donc, peut-être qu'on pourrait changer le nom et l'appeler jardin d'été. Mais pour le moment, au niveau du concours, on l'appelait jardin d'hiver et le nom est resté comme ça. Les gens l'appellent jardin d'hiver. Alors, les logements, on les a donnés avec les clés. Et avec un petit dessin expliquant aux habitants comment ils devaient faire pour réellement en profiter, pour éviter d'avoir des frais élevés d'électricité. On voit souvent les gens de New York, les gens de Paris, les gens d'un peu partout qui viennent à Barcelone parce que c'est un endroit encore, je crois, fort pour l'architecture. Pour moi, venant de Montréal, je venais seulement en vacances à Barcelone, en échange pendant une année. Et quand j'ai laissé tomber mes valises en sortant du train et j'ai vu qu'ils étaient sur un pavé qui avait été dessiné par Gaudi et que l'arrêt d'autobus avait été dessiné par Elias Torres, un architecte que j'admirais beaucoup, j'ai pensé, moi, si je reste, parce que les architectes ont du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs architectes qui participent de la politique, du système de décision dans la ville. Même les chauffeurs de taxi peuvent parler d'architecture à Barcelone. Quand on inaugure un édifice, les gens sont invités, on fait une fête. Donc l'architecture est un débat constant. Une autre chose aussi, c'est que comme architecte à Barcelone, la plupart des projets sont petits. C'est pour ça que j'ai trouvé que les projets d'ici étaient semblables dans l'échelle. Les parcelles, les terrains sont petits, ils ont la même échelle. Et on ne va jamais donner à un architecte plusieurs terrains à développer un à côté de l'autre. On va toujours vouloir faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre plusieurs architectes. Donc, on a tendance à fragmenter les commandes. Donc, il y a beaucoup de débats. On est souvent porté à expliquer nos projets en public à des associations de voisins. Ça se fait beaucoup, de plus en plus. Et aussi, il y a des commissions de qualité à Barcelone où il y a des architectes étrangers qui soumettent nos projets à des débats. Pas à l'intérieur des édifices, mais comment ils s'imbriquent dans la ville. Donc, c'est un débat constant. C'est toute une différence. Ça n'existe pas au Canada.
J'aime beaucoup. Et ici, cette salle avec des rampes, ça me rappelle un peu le Guggenheim en rectangle, en fond rectangulaire. Donc, on a tout de suite aimé, il y a une année, quand on a visité ça. Il y a deux rampes qui se croisent. D'un côté, on commence avec le projet barcelonais et de l'autre côté, le projet de Wallonie-Bruxelles.
En fait, l'intérêt de ce projet, c'est d'impliquer directement dès la source des bureaux Wallonie-Bruxelles et des bureaux de l'endroit où on souhaite présenter l'expo et de mobiliser déjà les architectes en amont. Et donc, même pour la création de l'exposition, ils ont été sollicités, ce qui les implique dans le projet. Et ce que le commissaire Nicolas Rigouchi expliquait tout à l'heure, c'est que les bureaux barcelonais dans les précédentes éditions se mobilisent fortement pour ce type de projet parce qu'ils y participent depuis la création.
Architecture. Regard croisé, architecture de Wallonie-Bruxelles et de Barcelone, à l'espace architecture à Flagey, jusqu'au 18 novembre. Avec Nicolas Rigouchi, Nathalie Brison, Pablo Loas, Stéphanie Willox, Sébastien Dachy, Andrea Tenuta, Delphine Peters et Judith Leclerc. Architecture, regard croisé, par Thierry Junicot. Architecture, regard croisé, architecture de Wallonie-Bruxelles et de Barcelone. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Y después iremos a visitar el MAD, que es el segundo proyecto que está seleccionado en la Expo. Visita guiada con los arquitectos de Rotor y de Plus. Después un poco de tiempo libre para tomar la ducha y todo. Y después volver aquí para las 6:30 para el vernissage y después el networking event. Pues y mañana empezamos a las 9, quedamos en Jourdan. Tenéis normalmente la dirección. Visitaremos el proyecto con le droit Pierre et Paulet y seguiremos el programa. Así que visitamos tres proyectos hasta mediodía. Y después tiempo libre y ya está.
Retrouvez Par où dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.